Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième émission de 5 sur 5, la radio vous écoute consacrée à l'islam. Vous le savez, à présent, monsieur Mohamed Harkoun, professeur émérite de la pensée islamique à Paris 3 et attaché à plusieurs universités européennes et américaines, est auteur de Manhattan à Bagdad, au-delà du bien et du mal, sorti aux éditions Des Clés et de Brouwer, nous accompagnera tout au long de ces émissions pour répondre à la question centrale, l'islam est-il pris en otage, et ce jusqu'au 3 octobre. Il nous apportera une analyse éclairée, différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre et répondra aux questions des auditeurs. À ses côtés, à nos côtés aujourd'hui, Rachid Benzine, chercheur en herméneutique coranique, science de l'interprétation des textes sacrés et auteur du livre Les nouveaux penseurs de l'islam, sorti aux éditions Albin Michel. Après Comment lire les attentats du 11 septembre, c'était le thème de notre émission d'hier. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux réponses à l'événement du 11 septembre. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite vous faire part du déroulement de l'émission qui a été légèrement modifiée. On apprend de l'expérience. Donc, professeur Harkoun, Rachid Benzine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être présent avec nous. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous parlons des réponses aux événements du 11 septembre. Qu'est-ce que vous visez quand vous parlez de réponses? Est-ce que ce sont les répercussions, les conséquences de cet événement sur la géopolitique? De quelle réponse il s'agit?
Bien, merci et bonjour à tous. Hier, nous n'avons pas épuisé, malheureusement, l'analyse de la première question qui, je le répète, était comment lire, c'est-à-dire comment comprendre de façon critique, analytique, le grand événement du 11 septembre, qui est un événement qui marquera l'histoire de toutes les sociétés du monde et qui marquera l'histoire de la pensée des hommes. C'est cela qu'il faut d'abord se mettre dans la tête. Autrement dit, il ne s'agit pas de s'égarer dans les polémiques sur les responsabilités de tout ce qui se passe, Amérique, Europe, Arabes, musulmans, terroristes, etc., etc. Ça, les médias en parlent suffisamment. Ce dont les médias ne parlent pas, c'est la genèse historique du 11 septembre. Comment en est-on arrivé à un attentat aussi spectaculaire, aussi complexe dans sa préparation et dans sa conception, et qui a des conséquences considérables sur la vie de toute la planète? C'est cela qu'il faut considérer. Alors, je rappelle que les responsabilités historiques doivent être reconstituées à partir de 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une série d'événements qui ont touché en profondeur toutes les sociétés colonisées jusqu'en 1945, car tous les pays musulmans étaient colonisés encore en 1945. Et les mouvements de libération de cette colonisation, c'est-à-dire de la domination européenne essentiellement jusque-là, pas du tout américaine, ça c'est important à signaler, cette colonisation va commencer à être ébranlée seulement dans les années 50. La guerre d'Algérie a duré de 1954 à 1962. Et puis il y a eu d'autres guerres. La guerre de 67, la guerre des six jours entre Israël et les pays arabes a marqué profondément non seulement le Moyen-Orient, mais toute la conscience arabe. Et au-delà de la conscience arabe, toute la conscience islamique. Tout cela s'est inscrit dans la tête des hommes et des femmes qui vivent encore aujourd'hui. Ils sont vivants. Autrement dit, la perception du 11 septembre ne peut pas être restitué dans toutes ses dimensions si l'on ignore tout ce qui s'est passé depuis 1945. Et il y a beaucoup de contemporains depuis 1945. Nous tous, nous sommes contemporains de cela. Nous avons une mémoire. Or, le 11 septembre a aboli toutes ces mémoires. À partir du 11 septembre, on ne parle plus du tout de ce qui s'est passé avant. Quand on évoque par exemple la guerre des six jours qui a créé la situation complexe actuelle en Palestine, qui a donné lieu à la conquête de ce que nous appelons les territoires occupés, on considère que ça a créé une situation légitime après une conquête qui est une conquête essentiellement militaire et qu'aucun arabe ne peut enregistrer comme un événement de portée juridique quelconque. Voilà des faits. Je suis obligé d'aller vite. Il y a beaucoup de choses à dire et si les lecteurs veulent vraiment se rendre compte de la complexité du 11 septembre et de la façon dont nous devons le traiter à partir des pays arabes, de la culture arabe, de la pensée arabe et de la mémoire historique arabe, il faut lire d'autres ouvrages que les ouvrages qui nous inondent et qui, comme je l'ai dit hier, sont des ouvrages de politologie.
Donc lire le 11 septembre, comprendre le 11 septembre, c'est aussi lire l'histoire et comprendre...
Absolument. Voilà. Il faut la lire d'autant plus que aussi bien les Arabes, ce qui est étrange et scandaleux, je dirais, aussi bien les Arabes que les Occidentaux annulent l'histoire de 45 au 11 septembre 2001. Cette histoire n'existe pas, personne n'y réfère. Alors ça, c'est cela dont il faut prendre la mesure d'une démission intellectuelle vis-à-vis de ces événements, des deux côtés bien sûr, je le souligne. Mais je trouve ça plus scandaleux encore du côté des Arabes qui ne donnent pas aux jeunes générations une information historique, pas idéologique. Vous voyez que je ne parle ni d'impérialisme, ni de colonialisme, ni de... Non. Ça, l'histoire, c'est autre chose. L'histoire, ça n'est pas de la polémique politique et du militantisme polémique qui peuple, hélas, encore nos têtes. C'est cela. Alors, ceci dit, il faut que j'aille vite. Les réponses à cet événement jusqu'à présent. Quelles ont été les réponses ?
Justement, pour aller dans ce sens-là, professeur, une réponse nécessite une question. Pensez-vous qu'on a posé les bonnes questions pour penser l'événement du 11 septembre ?
Pour le penser tel que j'essaye de le faire devant les auditeurs qui nous écoutent, je dirais non. Parce que, encore une fois, les penseurs de l'histoire et les penseurs des grands événements qui bouleversent l'histoire sont extrêmement rares. Surtout du côté des Arabes, pour diverses raisons que je ne peux pas définir ici. Parce que penser cet événement, c'est d'abord penser l'islam lui-même comme religion. Et penser l'islam comme facteur de production de l'histoire des sociétés musulmanes. Ça, c'est compliqué. Et ça, c'est absent. Avez-vous jamais vu un livre qui s'appelle « Penser l'islam aujourd'hui » Jamais. Ça n'existe pas. J'ose le dire parce que j'ai un livre qui est prêt et qui va paraître et qui va s'appeler « Penser l'islam aujourd'hui ». En intégrant non seulement le 11 septembre, mais en remontant dans l'histoire de la pensée islamique jusqu'au Coran. Et en partant du Coran lui-même, et en redescendant, je remonte l'histoire et je redescends l'histoire. C'est cela, le fait de penser, c'est-à-dire réfléchir de façon critique et mettre l'islam à distance critique, même si c'est ma religion. Je mets l'islam à distance critique, comme nous voyons des chrétiens mettre le christianisme à distance critique.
Nous verrons. C'est une démarche scientifique.
Et absolument, nous en avons besoin. Or, quand nous parlons de l'islam, quand les musulmans parlent de l'islam, et ils en parlent uniquement sur le mode de la croyance, et de la croyance orthodoxe, c'est-à-dire d'une croyance contrôlée, où je suis sunnite, où je suis chiite. Et j'ai une théologie différente, par exemple, de l'autorité spirituelle, si je suis chiite ou si je suis sunnite. Et cela doit être réfléchi pour la première fois parce que ça n'a pas été fait.
Permettez-moi, professeur Harkoun et Rachid Benzine, de rappeler aux auditeurs notre thème d'aujourd'hui, les réponses au 11 septembre. Je vous en prie, professeur Harkoun, Rachid Benzine.
Dans votre livre de Manhattan à Bagdad, vous dites que la réponse a été militaire et guerrière, alors que les problèmes qui la sous-tendent sont d'essence philosophique et spirituelle. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ?
Exactement. Mais d'abord, je voudrais expliciter le thème, le second thème d'aujourd'hui, les réponses au 11 septembre. Alors, il y a quatre réponses principales. Il y a d'abord la réponse des États-Unis parce que ce sont eux qui ont été le théâtre de l'agression du 11 septembre. Et les États-Unis ont répondu par la guerre en Afghanistan et la guerre en Irak. Nous sommes en train de vivre les conséquences tragiques de cette réponse. La deuxième réponse, différente de celle des États-Unis, est celle de l'Union européenne. Car l'Union européenne existe. Et c'est une force, non seulement une force, bien qu'elle ne se soit pas manifestée militairement, sauf certains pays comme l'Espagne et l'Italie qui ont envoyé des troupes pour s'allier à la réponse donnée par les États-Unis, mais il y a d'autres pays comme la France et l'Allemagne qui se sont tenus à l'écart de cette réponse. Cela veut dire qu'il existe dans l'Union européenne et en Europe une vision différente de la situation créée et des problèmes soulevés par les attentats du 11 septembre. C'est extrêmement important. Il faut donc analyser cette différence de réponse entre les États-Unis et l'Union européenne. Ensuite, nous avons l'absence de réponse, pas des réponses. L'absence de réponse et de réponse positive, efficace, qui soulève des adhésions, non seulement dans le monde arabe, car il s'agit des réponses du monde arabe à cet événement, qui soulève aussi des réponses à une analyse critique de cet événement. Amr Moussa, le secrétaire général de la Ligue arabe, nous a réuni un certain nombre d'intellectuels le 25 novembre 2002 au nom de la Ligue arabe pour apporter des réponses. Et je me souviens, j'ai participé à cette réunion, voilà une réponse, mais cette réponse n'a pas eu de développement. Nous avons dit beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de participants à cette réunion très importante, au nom de la Ligue arabe, voilà ce que j'appelle une réponse du monde arabe. Je la mentionne parce qu'elle a eu lieu, c'est une référence. Mais cette référence n'a pas eu les amplifications nécessaires, la publicité nécessaire et surtout... Et surtout, le suivi nécessaire de la part de la Ligue arabe, c'est-à-dire de chaque pays arabe, pas seulement de la Ligue en tant qu'institution rassemblant tous les pays arabes. Et nous attendions, personnellement, j'avais insisté sur la nécessité de poursuivre ce qui s'est passé au Caire devant M. Amr Moussa. Ça n'a pas été fait, il faut bien le dire. Je n'ai jamais eu... aucun contact, aucune nouvelle depuis cette réunion personnellement, alors que je suis un des acteurs de cette réunion et que j'aurais aimé voir diffuser dans le monde arabe les idées que nous essayons aujourd'hui à travers Radio Orient, radio à la fois modeste, je le répète, mais courageuse, puisqu'elle le fait, elle donne la parole à cet aspect des choses et il est infiniment regrettable qu'il y a ce que j'appelle une absence de réponse qui force l'attention des Américains et qui force l'attention des Européens et qui force l'attention du monde entier qui regarde les conséquences du 11 novembre jusqu'à présent. Car il ne faut pas simplement considérer le monde arabe et le monde musulman, ce ne sont pas les seuls intéressés. Je l'ai dit, cet événement concerne le monde entier. Ça fait partie du grand mouvement de la mondialisation. Nous sommes en plein dans la mondialisation et cet événement aussi est une production de la mondialisation. Je n'ai pas le temps d'expliquer plus loin, c'est très important.
Professeur Harkoun,
le quatrième, c'est les réponses du monde qui se présentent comme monde musulman. Par exemple, la conférence islamique. La conférence des États musulmans qui se tient de temps en temps. Quelle réponse pouvons-nous citer ? À ma connaissance, il n'y en a pas eu. Donc c'est pour cela que je parle de absence de réponse au niveau où je me situe.
Oui.
Il ne s'agit pas d'une réponse militaire, il ne s'agit pas d'une réponse purement politique, il s'agit d'une réponse responsable en tant que positionnement intellectuel et culturel dans les conflits séculaires qui divisent d'abord l'islam et le christianisme depuis le Moyen-Âge, car cela a existé au cours de l'histoire, et l'histoire est marquée. Tous les Arabes parlent des croisades, par exemple, mais ils en parlent d'une manière purement mythologique. Et c'est cette analyse-là qui aurait pu aboutir à des attitudes positives pour bâtir un autre futur, ouvrir des horizons d'une autre politique, à la fois dans les pays arabes et dans les pays européens d'une part et américains d'une part. Cela aurait noué un dialogue au niveau politique, mais au niveau de ce que j'appellerais une philosophie politique.
Professeur Harkoun, si je peux...
Pour le monde, après les événements...
Vous mettez en avant donc ces réponses-là. Vous dites que vous faites partie, donc cet événement fait partie de la mondialisation.
Absolument.
Vous parlez de deux réponses qui se font entendre, celle des États-Unis, puisqu'on a vu la guerre en Afghanistan et en Irak, de l'Union européenne, qui a pris part également au débat en refusant, la France par exemple, qui a refusé d'envoyer des troupes, d'autres pays comme l'Espagne qui en a envoyé, ou l'Italie.
Exact, oui.
Et puis, face à cela, vous parlez de la Ligue... Des pays arabes, de la Ligue arabe et du monde musulman, où vous parlez vraiment d'une absence. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dire par là?
C'est l'absence d'une réponse
qui trouve un écho
intellectuel, qui trouve un écho dans le monde occidental. Car le monde occidental est à l'affût d'une parole critique, au sens de la critique scientifique. Par exemple, la critique de la politique des États arabes depuis l'accès aux indépendances, c'est-à-dire depuis 1950. Nous n'avons pas une histoire des États arabes et de leur politique vis-à-vis de leur propre peuple depuis les années 1950. Voilà ce que j'appelle la critique. Ce n'est pas de la philosophie spéculative. C'est l'histoire que nous avons vécue tous. Et là encore, je parle de contemporains.
D'après vous, s'ils ne sont pas les seuls à être concernés, ils avaient quand même un devoir plus important par
rapport aux autres. Bien entendu, le monde arabe, le Moyen-Orient est arabe dans sa majorité. Il y a d'autres, évidemment, références. Mais le monde arabe est directement visé.
Vous avez eu l'occasion d'aller à la librairie du Congrès, dans lequel vous avez énoncé cette notion de parole absente.
Exactement.
Qu'est-ce que vous entendez par là?
C'était en octobre 2001, c'est-à-dire deux mois, même pas, après les attentats. J'ai fait une conférence à la librairie du Congrès intitulée « La parole absente ». Ça, c'est le titre de la conférence. Qu'est-ce que c'est que la parole absente? La parole absente, c'est celle qui aurait dû accompagner la réponse militaire purement punitive et conquérante. Et cette réponse est une réponse politique, comme je viens de le dire, qui relève d'une la définition devant le monde, à la tribune des Nations Unies, par la voix des grands dirigeants européens, américains, mais aussi de grands représentants, la Chine, l'Inde, etc., devant le monde entier. Quelle réponse? Dire que cet événement est le symptôme et la manifestation tragique d'une géopolitique conduite par les pays d'Occident, Europe et Amérique réunis, depuis les accords de Yalta et depuis les décisions prises par tous les protagonistes qui avaient la puissance militaire et technologique depuis 1945, ce qui englobe l'ancienne URSS, qui évidemment est le protagoniste de la guerre froide, qui elle aussi, par rapport avec les États-Unis et l'Occident dit libre. Nous nous souvenons très bien des déchirements politiques qui ont marqué la politique de tous les États post-coloniaux, qui se classaient soit du côté de l'URSS, soit du côté des États-Unis, et qui ont complètement perdu de vue la politique essentielle qu'attendaient les peuples libérés de la domination coloniale, les peuples qui voulaient accéder à des libertés politiques et les peuples qui attendaient un saut définitif et irréversible voulu par les États, conduit par les États, un saut vers la construction démocratique des sociétés libérées du colonialisme. C'est cela la parole absente.
Rachid Benzine,
et je n'ai pas entendu de discours formulé ainsi un nouveau regard et une nouvelle pensée politique à la fois à l'adresse des pays arabes à l'intérieur de leur histoire, des pays musulmans tous, de l'Indonésie au Maroc et du Caucase jusqu'à l'Afrique du Sud, parce que c'est tout ce monde-là qui est concerné, et au-delà d'eux, il y a ce que nous appelions le tiers-monde, car il y a le continent africain qui n'est pas entièrement musulman et qui souffre. Et quelle souffrance! Nous sommes obnubilés par l'Irak et les États-Unis. On a complètement oublié qu'il y a en Asie et en Afrique des sociétés qui, pendant que cette guerre se déroule, souffrent considérablement. Le Soudan, qui est votre pays, madame. Oui.
Oui, le Darfour, oui, bien entendu.
Bien sûr, etc. Il y a donc une absence totale de pensée politique dans ce sens, et c'est ce que j'ai appelé la parole absente jusqu'à présent, et jusqu'à présent elle est absente. J'ai dit tout à l'heure encore un mot, que dans l'Union européenne, il y a des pays comme la France et l'Allemagne qui n'ont pas participé aux expéditions militaires, c'est-à-dire à la réponse militaire, mais ils n'ont pas non plus cette vision et cette parole de libération pour le monde. Et pour les peuples qui sont opprimés par leurs propres États et qui attendent le salut d'une intervention, mais pas d'une intervention militaire, d'une intervention de prise en charge politique à travers les Nations Unies de tous les problèmes considérables créés par les États post-coloniaux vis-à-vis de leurs peuples et des problèmes créés par cette absence de politique dans le monde entier.
Je rappelle, avant de vous donner la parole, Rachid Benzine, le numéro de téléphone de Radio Orient 08 92 68 94 30 0 92 78 94 30. Bien entendu, nous prendrons vos questions après la publicité, après 11h30. Je vous en prie.
Professeur Harkoun, on vient de vous entendre effectivement sur cette parole absente qui doit advenir aujourd'hui pour une politique de l'espérance, mais comment ce que vous appelez la fin des légitimités, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer ce terme, comment faire face à cette fin de légitimité pour tenter d'apporter une nouvelle réponse?
Exactement. Ce que je viens de dire sur la réponse exclusivement militaire, alors qu'elle aurait dû s'accompagner dans la bouche du président américain de cette déclaration solennelle que la guerre au terrorisme, qui est légitime, doit s'accompagner d'une réforme profonde, plus qu'une réforme, d'une subversion de la géopolitique et de la carte géopolitique et de la philosophie politique qui a jusqu'à présent conduit, inspiré la géopolitique du monde. C'est la subversion de la vision politique, de la carte géopolitique du monde. C'est cela qui aurait dû être annoncé solennellement par les États-Unis, par l'Union européenne, qui, je pense là, aurait fait une véritable alliance, mais cette fois-ci, pas pour faire la guerre à un peuple, pourquoi ce peuple et pas les autres, n'est-ce pas, mais pour changer la vision politique, encore une fois, qui doit s'appliquer à toutes les sociétés et qui doit définir une nouvelle philosophie de la mondialisation. C'est cela la parole absente. Eh bien, je continue à appeler cette parole pour qu'elle advienne. J'aurais voulu qu'elle l'entendre à partir des pays arabes, à partir des intellectuels arabes. Malheureusement, nous ne l'avons pas entendue, puisque personne n'en parle, c'est qu'elle n'existe pas. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et donc, la légitimité, Kofi Annan vient de le dire, il a eu enfin le courage de le dire. Mais il l'a dit après plus d'un an de guerre et de massacre, que la guerre d'Irak est illégale, en dehors de toute légalité des Nations Unies. Mais la légalité, elle est pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une légalité qui fonctionne dans les pays ex-coloniaux ?
Professeur Harkoun, Rachid Benzine, on se retrouve juste après la pub.
Professeur Harkoun, je me tourne vers vous avant de prendre les premières questions pour vous poser la question qui arrive clairement après votre discours. Comment est-ce qu'on peut donc arriver à entendre cette parole absente, comment faire retentir un écho, peut-être par la refonte, vous parliez tout à l'heure des Nations Unies, des organisations internationales, peut-être par la refonte de ces organisations. Quand on regarde le Conseil de sécurité, par exemple, on voit qu'il y a un manque de représentativité des pays qui vivent
absolument.
Le plus
il n'y aura
de problèmes.
J'ai parlé du passage de l'événement qu'est le 11 septembre à l'avènement en français. Événement, avènement. L'avènement, c'est ce qui advient après une longue attente et une longue espérance des hommes. C'est l'espérance des hommes qui est comblée par quelque chose qui se réalise, comme le Messie qui vient combler un vide dans l'existence humaine. C'est l'avènement. Eh bien, j'ai parlé, dans la conférence à laquelle on a fait allusion, de passer de l'événement du 11 septembre à l'avènement d'une autre organisation des Nations Unies. Car c'est par une réforme profonde des Nations Unies créées en 1945, et beaucoup de choses ont changé, comme par exemple la structure du Conseil de sécurité avec le droit de veto donné à quatre grandes puissances, sans qu'il y ait...
Sorti vainqueur...
parce que c'était les vainqueurs de la guerre, sans qu'il y ait au moins participation active et voix délibérative qui compterait et limiterait ce droit de veto exorbitant qui a bloqué tant de choses depuis 1945. Donc, pour qu'il y ait avènement de cette parole, qui est une parole d'espérance pour tous les peuples et une parole de politique active pour une histoire solidaire des peuples et des peuples qui auraient la possibilité de contrôler leurs gouvernants, c'est-à-dire les États. Ça, c'est une subversion de toutes les institutions dans lesquelles nous vivons, aussi bien en Occident que dans les pays qu'on appelait autrefois tiers-monde.
Rachid Benzine.
Professeur, vous utilisez souvent le mot subversion. Alors là, on voit la subversion du côté un peu, entre guillemets, occidental à travers l'Organisation des Nations Unies. Mais vous appliquez ce même concept, subversion, aux pays en contexte islamique.
Absolument. Bien entendu, il faut sortir du discours de la victimisation. De nous présenter constamment, nous, c'est le tiers-monde, je ne parle pas seulement des musulmans.
Oui.
C'est tout le tiers-monde. Que le tiers-monde cesse de parler de victimisation après le 11 septembre, parce que après le 11 septembre, l'Amérique est devenue la victime. Avec toute sa toute-puissance, les Américains se sentent victimes. Ils se vivent victimes. Et c'est au nom de cette inversion des statuts et des rôles dans l'histoire que les États-Unis, cette grande, immense puissance, soient réduites au moins à se sentir comme étant la victime.
D'ailleurs, il parle de guerre préventive.
Et c'est la victime qui autorise la légitimation de la guerre. De la même façon, le tiers-monde s'est présenté depuis les années 50 comme la victime du colonialisme pour légitimer les révoltes et les guerres de libération. Autrement dit, la victimisation, c'est un chemin vers la légitimité. Je dis que la victimisation ne saurait construire et donner une légitimité. Absolument pas. je n'ai pas le temps d'expliquer philosophiquement pourquoi je dis cela et que je soutiens cette position. Et c'est en toute liberté et en toute lucidité que les arabo-musulmans et les musulmans et le tiers-monde, l'Afrique, comme j'ai dit, et l'Asie, qu'ils soient musulmans ou pas, doivent maintenant assumer leurs responsabilités en acceptant de subvertir intellectuellement, par la connaissance scientifique, pas par la terreur, pas par les armes, pas par le sang, par une nouvelle éducation du peuple, des peuples, et leur dire ce qu'est leur histoire par rapport à la modernité intellectuelle. Car ici, j'emploie les outils de la modernité intellectuelle pour dire ce que je dis.
Donc vous dites clairement que c'est au peuple de se défaire et
de se
responsabiliser.
C'est une conversion psychologique. Nous sommes appelés à cette conversion pour dépasser.
Et qu'il ne faut rien attendre, même pas de nous.
N'attends rien. C'est pas l'Occident qui va faire le travail d'une relecture fondamentale du Coran et de toute la tradition islamique. Ce travail, je l'ai entrepris depuis les années 70. Ma critique de la raison islamique a été publiée en 1974. Ça fait très longtemps.
Professeur Harkoun, Rachid Benzine, je vous propose de prendre des questions, quelques questions comme ça à la suite, et puis je vous laisserai y répondre.
Allô, bonjour. Ben voilà, je m'appelle Leïla. Je voudrais savoir comment nous, musulmans de France, par exemple, comment on a répondu aux événements du 11 septembre. Encore, on est en train de rester sur l'histoire brillante, si on peut dire, de l'islam, de la civilisation musulmane, de l'époque. On est toujours tout le temps en train de vivre Ibn Rushd, Ibn Avicenne, Ibn Sina. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on doit aussi discuter?
J'aimerais bien connaître l'amalgame, l'origine sur le 11 septembre et pourquoi on a collé ça sur le monde arabe, les musulmans, l'islam. Ma question la plus importante des trois, c'est pourquoi le monde arabe reste indifférent à tout ce qui se passe en Irak et en Palestine. Pourquoi le monde arabe ne bouge pas? C'est tout ce que je veux savoir. Pourquoi il ne bouge pas? L'autre fille.
La question est la suivante. Quelles sont les réponses apportées par cette réunion de la Ligue arabe qui a eu lieu au Caire? Alors, je suis Michal. Je salue Rachid Benzine. Nous avons fait un merveilleux voyage, nous avons fait un bon voyage, très éducatif ensemble, avec le père Choufani, en mai 2002, je crois. Non, 2003, hein. Voilà. Rachid, je te salue. Merci et j'écoute avec beaucoup d'attention. Merci, au revoir.
Oui, allô. Donc, j'aurais voulu poser une question, c'est-à-dire de savoir à qui il a profité le 11 septembre et quand on peut répondre à la question à qui il a profité le 11 septembre et en réalité, qui étaient les victimes et non pas qui... Si les musulmans étaient victimes du 11 septembre et non pas les otages du 11 septembre, savoir s'ils étaient vraiment victimes ou otages et savoir si vraiment on doit absolument imposer cette démocratie avec le son des bombes sur ce monde musulman ou le monde entier. Est-ce que la démocratie déguisée, entre guillemets, est devenue une dictatorisation de démocratie? J'aimerais bien savoir s'il y a une réponse à ces questions et merci.
Voilà, donc on a quand même pas mal de questions. On a reçu pas mal de questions au standard de Radio-Orient. Docteur, oui. Professeur Harkoun, je vais vous laisser répondre à Leïla. La première question, c'était comment les musulmans de France peuvent répondre à ces événements du 11 septembre et pourquoi ils se reposent toujours sur l'âge d'or de l'islam et ne l'évoluent-ils pas.
Excellente question. Excellente question qui permet d'expliquer encore mieux pourquoi il y a absence de réponse à la hauteur de l'événement de la part de la pensée arabe, de la culture arabe, de l'histoire des Arabes et des musulmans plus généralement. Les musulmans qui vivent en France sont privés de toute information et de toute formation intellectuelle et scientifique pour développer un rapport réfléchi, critique, vis-à-vis de l'islam. Ce sont des immigrés qui ont tous apporté dans leur tête, en France et dans toute l'Europe et dans toute l'Amérique, cet islam qui a été diffusé par les écoles elles-mêmes, par le système éducatif après les indépendances. Après les indépendances. L'islam a été totalement transformé et devenu l'otage, c'est le titre de notre émission, il est devenu l'otage de l'idéologie fantasmatique en ce qui concerne l'islam comme histoire, l'islam comme culture, l'islam comme religion. Je dis bien fantasmatique. On a créé des fantasmes sur ce qu'est l'islam et on a développé et enseigné à l'école des mythologies sur la biographie du prophète, la Sira par exemple, sur le Coran et ce qu'est le Coran, ce que représente le Coran, sur la tradition musulmane, sur ce qu'on appelle la charia. C'est ce que j'appelle dans mon livre, et je l'explique longuement, la mytho-histoire. Tous les musulmans de France vivent avec une mytho-histoire dans leur tête et instrumentalisent l'islam comme refuge psychologique.
Et c'est ce qui les empêche,
affirmer de s'affranchir. Une identité, refuge, pour affirmer une identité, ça n'est pas un bastion, ça n'est pas un tremplin pour aller vers l'histoire avec les libertés nécessaires dans leur tête. Et premièrement, la liberté critique dans leur tête. Cela n'est pas donné aux musulmans de France, je le souligne, malgré mes efforts. Car je réclame au gouvernement français, toute majorité confondue, depuis les années 80, exactement depuis l'affaire Rushdie, je mène une bataille qui n'a pas abouti pour que justement on crée à Paris une école nationale d'études islamiques ouverte à tous les publics et où l'on diffuserait à large échelle les cette formation, cette information scientifique et intellectuelle pour que les musulmans et les non-musulmans, les Français, entendent enfin quelque chose qui est intellectuellement respecté et donc accepté pour que nous parlions un langage commun au sujet du statut de la religion dans un pays de culture laïque.
Oui, mais professeur Harkoun, aujourd'hui,
je n'ai pas le temps.
Aujourd'hui, il n'y a pas d'école nationale d'études islamiques en France. Comment est-ce que ce n'est pas la responsabilité des musulmans d'avoir une lecture, de s'affranchir un petit peu?
Alors, il y a
une lecture beaucoup plus éclairée.
Il y a toujours deux responsabilités. Le gouvernement de la République est responsable parce que l'éducation nationale républicaine a l'obligation républicaine de donner à tous les élèves une formation intellectuelle. Former le jugement critique à l'école. C'est la vocation de tout enseignement laïque, je le dis à haute voix. Je suis un enseignant laïque à la Sorbonne.
Rachid Benzi.
Donc ça, c'est son obligation. Et l'obligation des musulmans, c'est de créer des universités privées, mais qui ne soient pas idéologiquement contrôlées et payées par des gens qui contrôlent l'orthodoxie de ce qui s'enseigne dans ces universités, car si cela se produit, et ça s'est produit, eh bien, les musulmans restent démunis. Ils n'ont pas les outils critiques nécessaires pour prendre des positions responsables en tant que citoyens d'un pays laïque, pour discuter la laïcité, critiquer la laïcité en tant que rétrécissement de la connaissance sur le fait religieux, car les gens ne savent pas que la laïcité peut nous apporter des outils formidables justement pour avoir d'autres compréhensions du fait.
Rachid Benzi.
Dans votre livre de Manhattan à Bagdad, vous dites que toutes les sociétés produisent de la mytho-histoire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez de manière très simple par la notion de mytho-histoire et notamment concernant l'islam?
Alors, pour expliquer ça, je renvoie les auditeurs à un manuel qui est le manuel d'histoire que tous les lycéens français ont utilisé depuis les années 20, pratiquement jusqu'aux années 50. C'est un manuel qui caractérise l'enseignement de l'histoire en France sous la Troisième République. C'est le Malaisac. Tous les Français connaissent le Malaisac. Maintenant, il a disparu parce qu'il est enfin remplacé par d'autres manuels, mais il a quand même régné près de 30 ans sur tous les lycées de France et de Navarre. Alors, comment le Malaisac présente, par exemple, Jeanne d'Arc, la figure de Jeanne d'Arc? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un lieu de mémoire historique mythologique. Il y a de l'histoire dedans, un peu d'histoire, mais il y a surtout de la mythologie. Même la figure de Charles de Gaulle, qui est récent et qui est notre contemporain, est mythologisée à une large échelle, et elle fonctionne comme une référence mythique, exactement comme la figure d'un prophète ou d'un compagnon du prophète sont mythologisées par les récits mytho-historiques qu'ont écrit Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Al-Tabari, Al-Kulayni pour Ali ibn Abi Talib. La même chose se passe. Ali Jinnah, qui est le créateur de l'État pakistanais. Lisez la biographie de Ali Jinnah, vous verrez que c'est de la mytho-histoire.
Professeur Harkoun, je reviens aux questions.
Voilà ce que c'est que la mytho-histoire.
Je reviens à la question posée par le deuxième auditeur qui parle de l'amalgame qui est fait autour du 11 septembre et il se demande pourquoi le monde arabe reste indifférent à ce qui se passe en Irak et en Palestine.
Oui, l'amalgame est dans toutes les têtes. Toutes les têtes sans exception. Les têtes des Américains, les têtes des Européens, les têtes des Japonais, les têtes, évidemment, du monde arabe et du monde musulman. Pourquoi? Parce que il n'y a pas cette intervention de l'histoire, car l'histoire est la seule discipline qui nous oblige à mettre les choses en place. Or, il se trouve que l'histoire est systématiquement évitée justement pour ne pas faire apparaître des responsabilités historiques de ceux qui recourent à la force des deux côtés.
Donc c'est pour cela qu'il y a
l'amalgame est dans toutes les têtes.
D'accord.
Il faut donc démêler toutes les confusions que véhiculent aussi bien les médias et que renforcent les médias par défaut d'analyse, par défaut de donner la parole à ceux qui sont capables d'apporter un peu de clarté et d'aider les gens qui n'ont pas le temps de lire
et parce que ça va très vite aussi
etc. Et là encore il y a des responsabilités multiples.
D'accord. Et pourquoi le monde arabe reste indifférent à ce qui se passe en Irak et en Palestine d'après vous?
Parce que le monde arabe est faible, il est divisé, il n'a pas de technologie. La guerre aujourd'hui se fait avec de la technologie. Et ce qui fait la puissance, la suprématie de l'Amérique, même par rapport à l'Europe, c'est parce qu'elle est la seule nation qui possède la technologie la plus avancée, la plus sophistiquée pour faire une guerre technologique. Une guerre propre, comme ils le disent.
Une guerre préventive.
Non, propre, c'est-à-dire sans mort pour les uns, et que les autres morts meurent, c'est pas un problème. Donc, et le monde arabe n'aura pas de technologie de sitôt. Voilà pourquoi c'est un paramètre d'une politique nouvelle. Le paramètre de l'impossibilité, même si je le veux, je ne le peux pas. Parce que pour avoir une technologie, il faut des laboratoires. Il faut de la recherche scientifique qui coûte extrêmement cher. Il faut des ressources humaines, former des savants et des chercheurs. Or, les savants et chercheurs formés dans les pays arabes ou hors des pays arabes, ils travaillent aux États-Unis. Ils ne travaillent pas en Égypte. Ils ne travaillent pas
les pays arabes doivent faire face à la fuite des cerveaux, qui est un mot très répandu.
Donc là aussi, que voulez-vous que fasse le monde arabe? Et puis le monde arabe aujourd'hui, après déjà la première guerre du Golfe, est très divisé. il est très divisé politiquement. Voilà pourquoi la Ligue arabe se réunit très peu.
Alors justement,
on a vu la difficulté
profite.
Pour la Ligue arabe de se réunir pour dégager une sorte de un semblant de consensus, au moins pour faire figure politiquement devant le monde. Donc il faut analyser.
Vous avez parlé tout à l'heure de la Ligue arabe et de la réunion qu'a organisée Amr Moussa. Une auditrice vous demande quelles sont les réponses.
Les réponses, c'est un peu ce que j'ai exposé. Enfin, tout le monde n'a pas exposé cela, bien sûr. Il y en avait qui ont versé dans le discours de la victimisation, dans le discours, etc., pour cacher justement ce qu'il faut au contraire mettre en avant pour en sortir. Mais il y a eu aussi des interventions qui ont insisté sur la nécessité de présenter un autre visage de l'islam, d'abord, et un autre visage de la pensée arabe en particulier, devant le monde. Et ce qui est absolument positif, c'est ce que nous demandons. Cependant, cet appel-là et ce qui s'est dit, comme malheureusement, ça n'a pas eu de suite, parce que pour que ça ait une suite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réformer en profondeur tous les systèmes éducatifs en vigueur dans tous les pays arabes.
Européens et occidentaux.
Et européens, bien sûr, en particulier sur l'enseignement de l'histoire dans les pays européens. Il faut absolument changer les programmes. Parce que ça n'est pas tout à fait le Mali-Isaac, mais on reste encore proche. Dans la présentation générale du Mali-Isaac, alors qu'il y a des masses d'immigrés qui ont des mémoires. Leur mémoire historique, elle est toujours dans leur tête. On ne va pas la supprimer. Il faut leur couper la tête pour la supprimer, si je puis dire, bien sûr.
Bien sûr. La dernière question, l'auditrice vous demande à qui a profité le 11 septembre.
Il n'a profité jusqu'à présent à personne. Et il a fait énormément de dégâts. Le premier grand dégât qui touche toutes les sociétés, c'est l'impossibilité où nous nous trouvons de définir une légitimité politique pour annoncer au monde cette nouvelle politique que je mentionnais. Car pour annoncer une politique, il faut posséder la légitimité politique de parler au monde, au sujet de ce que nous pouvons faire tous au sujet de la politique. Ça, c'est la première victime, la légitimité. Légitimité juridique, mais aussi légitimité philosophique du politique. C'est la première grande victime qui touche absolument tout le monde, y compris, bien sûr, les États-Unis, qui vont réélire, en toute vraisemblance, le président, alors que nous sommes devant quand même d'énormes problèmes de légitimité, au sens philosophique.
Je voudrais quand même prendre le message de Fouad de Nice qui nous a envoyé un message hier, plusieurs messages hier, on n'a pas pu les lire à l'antenne. Il nous reste très peu de temps, il vous demande pourquoi on parle des réponses du 11 septembre et pourquoi l'on ne considère pas cette date comme une réponse à toute une politique agressive et partielle de la part des États-Unis et des Occidentaux en général vis-à-vis du conflit israélo-arabe et du mépris qu'a l'Occident de la personne arabe et musulmane et de l'indifférence à leur souffrance.
Très
rapidement.
Bien sûr, très rapidement, hélas, très rapidement, hélas, je dirais que le 11 septembre, d'abord, c'est un acte terroriste. Et il n'est pas question de légitimer un acte terroriste, même d'une moindre dimension. Parce que si, quelque part, on justifie l'acte terroriste, c'en est fini de la personne humaine. De la protection, de la dignité de la personne humaine. Si je fais un acte terroriste, je me nie en tant que personne. Donc ça ne souffre pas de discussion. Deuxièmement, le 11 septembre n'a pas été accompagné par cette parole absente. Il n'y a aucun horizon politique d'avenir auquel adhérerait la conscience des hommes d'aujourd'hui, non seulement dans le monde arabe, mais dans le monde d'aujourd'hui, pour donner, je ne dirais pas une légitimité, parce que c'est un acte terroriste par définition. On ne peut pas donner une légitimité à un acte terroriste. En revanche, on peut donner des légitimités à des sacrifices, à des résistances, à des combats politiques, on me met en prison, etc. Je vais souffrir comme beaucoup ont souffert en prison et ailleurs. Ça donne de la légitimité à une lutte.
Professeur Mohamed Alkoun, merci beaucoup. Je vous dis à demain puisque nous vous retrouvons jusqu'au 3 octobre. Rachid Benzine, merci. Je rappelle, professeur Alkoun, que vous êtes professeur émérite de la pensée islamique à Paris 3 et attaché à plusieurs universités européennes et américaines et auteur de Manhattan à Bagdad, au-delà du bien et du mal, sorti aux éditions des Clés de Brouwer. Je vous en
D'histoire de la pensée islamique.
D'histoire
de, pas la, de pensée. La pensée islamique.
Très
D'histoire
important.
D'histoire de la pensée islamique.
Et on sait à quel c'est point c'est important l'histoire.
Puisque aujourd'hui. C'est notre sujet.
Très bien. Merci. Rachid Benzine, je rappelle que vous êtes chercheur en herméneutique coranique, science de l'interprétation des textes sacrés et auteur du livre Les Nouveaux Penseurs de l'Islam, sorti aux éditions Albin Michel. Je vous conseille vivement de lire ces deux ouvrages, c'est très important. Je vous donne rendez-vous demain dès 11h pour un nouveau thème, la pensée arabe et islamique face au 11 septembre 2001.
Pour mieux professeur suivre Arcon. Les prochaines sessions, effectivement, il faut absolument lire au moins ces deux livres, parce qu'on avancera ensemble d'un même pas plus rapidement.
Parfait. De Manhattan à Bagdad, au-delà du bien et du mal, sorti aux éditions des Clés de Brouwer, du professeur Mohamed Alkoun, et Les Nouveaux Penseurs de l'Islam, de Rachid Benzine, sorti aux éditions Albin Michel. Très bonne journée à tous, en compagnie des programmes de Radio Orient. Merci à Camille Rez à la technique. Très bonne journée, au revoir.